Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Sur le chemin du Nord, notre Jacquère quitte le Pays Basque et arrive en Cantabrie. Sur les bacs de Cantabrie. Autant le dire tout de suite, je n'ai pas aimé la Cantabrie. Ou plutôt, je n'ai que modérément apprécié la longue portion de chemin qui la traverse. Car je sais qu'ailleurs, dans l'arrière-pays, notamment autour des fameux picos de Europa, la nature reste sauvage et splendide. L'itinéraire jacquère dans cette région m'a paru monotone, déprimant, mal tracé. Trop de passages le long des routes, trop de paysages industriels, trop de lotissements déserts, constellés de panneaux à vendre. Cela posé, le pèlerin n'est pas un touriste, rappelons-le. Il n'a pas le droit d'exiger en permanence le sublime. Et si le Pays Basque l'a gâté par ses constantes beautés, ce n'est pas une raison pour se croire le droit d'en exiger autant de toutes les régions espagnoles. Sur le fond d'amertume et d'ennui qu'a déposé en moi la traversée de la Cantabrie, se détachent quand même quelques très beaux moments. La province compte des villes superbes et le chemin permet d'en traverser plusieurs. La première est Laredo. On l'aborde par le haut, en sortant péniblement d'un nœud autoroutier. En contrebas, les toits de tuiles rouges de la vieille ville se serrent les uns contre les autres en un harmonieux désordre. Le piéton que l'on est descend doucement jusqu'à eux. Il a le temps d'admirer les clochers, le dessin des ruelles, les places. Et pour finir, des escaliers interminables l'introduisent dans le décor. Il débouche dans une rue commerçante, où les passants le regardent arriver de nulle part, en descendant les dernières marches, avec l'air un peu intimidé du quidam qui débarque dans la lumière sur le plateau d'un jeu télévisé. Ce vieux quartier est charmant, et on s'en contenterait. Malheureusement, c'est la Cantabrie, terre de villégiature, livrée depuis longtemps à la cupidité des promoteurs. L'immense plage qui prolongeait jadis la ville, et qui a longtemps dû rester un lieu désert infiniment poétique, est devenu un front de mer interminable. Les constructions les plus hétéroclites, de la villa à l'immeuble locatif au vol éclos, se disputent les premières places d'un vertigineux concours de laideur. Et le marcheur souffre, qui passe en revue cette troupe immense de murs au garde-à-vous. On imagine que pendant certains beaux week-ends et aux vacances scolaires, tout cela s'anime un peu. La promenade le long de la plage doit bien accueillir quelques enfants, puisque l'on voit des aires de jeu ici ou là. Pour l'heure, il n'y avait personne, tout au plus quelques dames sur l'âge promenaient de petits chiens. Des cygnes jacquaires de loin en loin gardent sur ce front de mer la mémoire des temps anciens, quand les pèlerins devaient longer les dunes et contempler les oiseaux de mer qui survolaient ces solitudes. Mais Dieu que cette plage est longue! Les derniers immeubles tout au bout sont encore plus affreux que les autres. On se sent soulagé de les quitter et d'avancer vers la pointe de sable qui s'avance entre mer et rivière. Là, soudain, s'ouvre un estuaire sauvage qu'il faut traverser sur un bac. Il n'y a pas de ponton pour l'aborder. Le bateau pivote, se met de flanc et une passerelle permet d'y grimper. Rien, sauf les moteurs de la barcasse, n'a dû changer depuis le Moyen-Âge. Ce sont des moments d'une rare harmonie qui font oublier tout le reste et même aimer la Cantabrie, au moins pendant les 10 minutes que dure la traversée. C'est sur ce bateau que je rencontrai le haut savoyard qui était parti de chez lui 2 mois plus tôt. Mais le bonheur est de courte durée. On se retrouve vite de nouveau à longer des nationales. Le fait qu'elle traverse des paysages lacustres n'est pas une consolation, bien au contraire. Car le marcheur à fleurs d'eau compatit avec les canards et les poissons et n'en est que plus choqué par les vrombissements des voitures lancées à pleine vitesse. Le sentier qui borde la route est parsemé d'ordures que les automobilistes ont jetées. Canettes métalliques, papier gras, paquets de cigarettes. En Cantabrie, le marcheur prend conscience pour la première fois qu'il est lui-même un déchet. Sa lenteur l'exclut de la vie commune et fait de lui une chose sans importance que l'on éclabousse, que l'on assourdit de klaxons et qu'au besoin on écrase. Ce n'était pas encore assez au Pays Basque d'être devenu un cheminot. Il fallait descendre encore plus bas et devenir cette chose méprisée qui se ferait un chemin au milieu des immondices. Dire que cette expérience est agréable serait exagéré. Il y a pourtant une certaine jouissance dans cette assaise. À l'avancée horizontale très lente de la marche, s'ajoute cette descente non moins progressive dans l'opinion qu'on a de soi, ou plutôt que les autres ont de vous. Car il est assez trivial de dire, mais assez rare d'éprouver soi-même, que l'extrême humilité est une des voies de l'orgueil. À mesure qu'il se diminue, le pèlerin se sent plus fort et même presque invincible. La toute-puissance n'est jamais loin de la plus complète assaise. C'est en réfléchissant à cela qu'on approche peu à peu le véritable secret du chemin, même s'il faut encore du temps pour le découvrir. La Cantabrie est une maîtresse sans pitié qui nous fait avancer sur la voie de la sagesse. Mais elle s'est aussi récompensée. Après une longue dose de bitume, elle offre de nouveau la récréation d'un estuaire et d'un bac. Le dernier est le plus beau. C'est celui qui mène à Santander. Avant de parvenir au quai d'embarquement, j'avais marché pendant la dernière heure, loin derrière un pèlerin solitaire. Il était remarquable en ceci qu'il portait non pas un vulgaire sac à dos comme nous tous, mais le bissac médiéval. Il tenait à la main un gros bâton, beaucoup plus court et trapu que le traditionnel bourdon que l'on voit sur les gravures anciennes. Tout de même, il était singulier. Les dernières centaines de mètres avant l'embarcadère traversaient, pour changer, un dédale de programmes immobiliers de vacances, tous fermés bien entendu. Un tel décor induit vite un sentiment d'étrangeté. On se sent dans un film de robe grillée. Le fait de poursuivre un pèlerin inconnu et mystérieux ne fait que rendre la scène plus insolite. Quand, finalement, je rattrapai l'homme au bissac et pus l'observer de près, il me surprit encore davantage. De loin, par sa silhouette, j'avais imaginé un de ces nostalgiques du passé, qui s'affublent de tous les accessoires traditionnels du chemin, au point d'en paraître déguisé. Celui-ci, bien au contraire, hormis son bagage et son bâton, était vêtu d'une façon tout à fait ordinaire. Jean, blouson imperméable style année 1960, chaussures de ville. On aurait dit qu'il était descendu de chez lui pour acheter des cigarettes au coin de la rue. Sur le bateau, nous nous installâmes à la proue avec d'autres pèlerins qui, eux, étaient du genre randonneurs high-tech avec GPS et chaussures Gore-Tex dernier cri. Je fis compliment à l'homme au bissac sur son équipement en lui faisant remarquer sur le ton de la plaisanterie qu'il était le seul à perpétuer la véritable tradition, celle qui avait prévalu pendant des siècles, avant qu'on ne rajoute une bretelle au bissac pour inventer le sac à dos. « Tu appelles ça un bissac ?» me dit-il. Il regarda sa musette d'un air morne. Bah, « À vrai dire, poursuivit-il, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris ce que j'ai trouvé chez moi et je suis parti. » En conversant avec lui, je me rendis compte qu'il était sincère. Au contraire de ce que j'avais imaginé, il n'y avait aucune intention particulière dans son apparence. C'était plutôt quelqu'un, je n'en ai plus jamais rencontré de semblable, qui traitait le chemin avec une absence totale d'anxiété et donc de préparation. Il ne voyait tout simplement pas le problème. Il était en effet descendu de chez lui avec trois affaires et une musette, et il avait marché. Un point, c'est tout. Pour autant, il était très organisé. Comme nous voyions approcher les quais de Santander où nous allions débarquer, nous nous mîmes à parler d'hébergement. Il avait réservé une chambre dans une pension. À l'arrivée, il était le seul qui saurait directement où aller. Mais il parlait de tout cela avec un complet détachement. J'avais l'impression d'être face à un spécimen dont j'ignorais jusque-là l'existence. Le cadre en pèlerinage, efficace, pratique, sérieux, compétent. C'était à se demander ce qu'il faisait là. Mais j'étais suffisamment acculturé désormais pour savoir que c'est une question qu'on ne pose pas. Le seul objet qui dénotait dans cette apparence lisse était le bâton. Vu de près, il s'avérait qu'il ne s'agissait pas d'un bourdon, encore moins d'une canne télescopique comme la plupart de nous en portaient. C'était un simple piquet de champ. Il était en bois brut, mal équarri, et sa pointe avait été taillée grossièrement à la hache et enduite de goudron. La curiosité était trop forte et je finis par lui demander ce qu'il faisait avec ça. « J'ai été attaqué par des chiens, il m'a fallu courir, et le seul objet que j'ai trouvé pour me défendre, c'est ce piquet. » Depuis, il l'avait simplement conservé et s'apprêtait à circuler dans une grande ville avec, à la main, cet instrument digne de Cro-Magnon. Ainsi, dans la personne de cet étrange pèlerin, la peur ancestrale des chiens avait-elle ajouté à une froideur très 21e siècle ce réjouissant accessoire revenu du néolithique ? Avant mon départ, en me documentant sur le chemin, j'avais lu beaucoup de témoignages inquiétants sur les chiens. Certains pèlerins font en rentrant des descriptions effrayantes de leur rencontre avec ces animaux. Je m'étais demandé comment je réagirais si j'étais mise en présence des molosses que ces rescapés prétendaient avoir affrontés. Ai-je eu de la chance ou ont-ils exagéré ? Pendant tout mon trajet, j'ai souvent entendu aboyer des chiens, mais leur aspect était en général bien moins impressionnant que leur voix. Ils étaient pour la plupart enfermés derrière des grillages ou des murs. J'ai rencontré un nombre impressionnant de corneaux efflanqués, de roquets ridicules et de vieux cabots. C'était à croire que tous les chiens dangereux avaient déjà dévoré leur contents de pèlerins et en étaient morts d'indigestion.
C'était « Immortelle randonnée » de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.